Bonjour. Alors, oui, effectivement, alors, soit je lance tout de suite ou soit je dis quand même deux mots au préalable. Donc, je vais faire une communication en fait, qui est au carrefour de plusieurs de mes travaux, de plusieurs de mes réflexions, certaines engagées depuis longtemps et d'autres un peu plus récentes. J'ai parmi mes amis collègues des gens qui travaillent sur la question des migrations depuis au moins une bonne quinzaine d'années. Donc j'ai cheminé un petit peu avec eux, mais sans en faire jamais mon thème de recherche central. Moi, j'ai travaillé en tant qu'historien, enfin une histoire très anthropologique, donc dans les zones sahéliennes et sahariennes, dans le nord du Mali principalement, au nord du Niger aussi un petit peu, sur des questions d'histoire sociale, sur des questions de révolte, sur des questions d'histoire orale aussi, en balayant une période assez large d'histoire précoloniale. J'ai fait un doctorat dont le point d'ancrage était au XVIIe siècle, sur essayer de reconstituer la formation d'une entité politique multiethnique avec des Touaregs qui dirigeaient ça. Et donc voilà, donc c'est surtout un ancrage géographique qui se situe donc dans cet espace immense qui est le nord du Mali, le nord du Niger, le sud de l'Algérie, la Libye et tout ce qui communique. Et on verra d'ailleurs, Delphine, quand tu disais qu'on travaillait sur des espaces distincts, pas si distincts que ça, parce qu'il y a un endroit où ces dynamiques se rencontrent avec Cédric, dans le Sinaï, là notamment, il y a une fluidité qui remonte. Enfin, il y a des événements qui se produisent dans le Sinaï et qui se déplacent vers la Libye, etc. Donc il y aura quand même un trait d'union sur le plan géographique, quoi. Donc voilà. Donc la question de la démigration, je commence à l'aborder un petit peu, mais depuis pas longtemps, à travers un séjour notamment que j'ai fait au Maroc en 2015. À Rabat, avec des collègues du LPED, là, Sylvie Brodelou, Sophie Bava notamment. Et on travaillait justement sur la question des objets, avec quels objets les voyageurs, les aventuriers, les migrants se déplacent-ils. Et c'était un atelier organisé avec des conservateurs là, du musée, avec des artistes, avec des étudiants. Et je suis rentré en contact par ce biais-là avec des Maliens du sud du Mali qui avaient justement fait la route et qui étaient en voyage, stationnés au Maroc, à Rabat, à ce moment-là, et qui, pour certains, avaient envie de passer vers l'Europe et qui, d'autres, se demandaient si c'était la bonne idée ou non, quoi. Et donc à ce moment-là, ce sont vraiment ces personnes-là, dans les entretiens que j'ai pu faire avec elles, qui m'ont reconnecté avec l'espace qui m'était familier, donc le nord du Mali, les régions de Gao, de Kidal et de Menaka, dans lesquelles, comme vous le savez, on ne peut plus se rendre actuellement, d'abord pour des questions d'interdiction, quand on devient chercheur statutaire, c'est formellement interdit de se rendre là-bas, donc à moins de prendre des vacances et de poser des congés, etc., chose que j'ai pu faire pour Agadez, mais là, réellement, le nord du Mali devient dangereux. Donc j'ai reconnecté, enfin, mon dernier séjour dans la région de Gao remonte à 2011, début 2011. Et donc j'ai reconnecté avec cet espace à partir du Maroc avec d'autres personnes en voyage aussi avec les migrants. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, enfin, le point d'articulation un peu de mon intervention et ce qui m'occupe là depuis quelques années, c'est cette figure un peu renversée de ces rebelles, hein, Touareg, qui sont des pasteurs nomades. Je dis ça entre guillemets parce que les gens se sédentarisent beaucoup, mais en tout cas sont devenus, comme certains auteurs là, le disent, là, des nomades au sens ethnique. Enfin, quand on reprend le terme nomade, voilà, enfin, des gens qui quand même vivent du mouvement, ont ce savoir-faire, ont cette histoire ancienne. Et ce sont eux qui, maintenant, se posent sur leur territoire, soit sous des arbres ou au milieu de nulle part, et contraignent le mouvement des autres. Les autres qui sont ce jeune homme-là qui est Samaké, là, Mohamed Samaké, il est graphiste, il travaille sur il fait des pochettes de disques, donc il travaille sur des outils informatiques. Je ne sais plus s'il est bachelier ou pas, mais c'est quelqu'un qui vit donc à Bamako, qui est né, grandi là-bas, dans une ville, et qui prend la route. Donc quelqu'un qui est plutôt, selon les représentations communes, on va dire, sédentaire, où il y a aussi beaucoup de migrants qui viennent de zones agricoles. Et donc cette question-là de nomades qui ont été perturbés là, dans leur mouvement depuis la colonisation française pour cette zone-là, on pourrait parler d'autres zones aussi, qui sont perturbés par les douanes, les polices, les États, etc., enfin, qui en font un jeu, se mettent eux-mêmes à contrôler le mouvement des autres et à les arrêter et à les freiner. Donc là, il y a quelque chose dont on reviendra sur la fin, et avec vos questions aussi, qui, moi, m'intéresse. Je ne sais pas dans quel jusqu'où ça peut nous conduire, mais en tous les cas, est une figure intéressante sur un basculement du monde, ou alors, justement, peut-être qu'on est toujours dans les logiques de la mobilité. Mon intervention sera en deux points. Une première partie plus descriptive sur les conditions du voyage, à partir notamment de ce que peut raconter Samaké dans son témoignage. Les conditions du voyage, les conditions des rencontres avec les différentes personnes. Donc ça va du chauffeur, des rebelles, les coxeurs. Là, je vous dirai tout à l'heure ce qu'est un coxeur, les courtiers. Et aussi, je ferai une description un petit peu là, des contextes pour, dans une deuxième partie, avoir un regard un petit peu plus théorique sur la notion là, de mobilité qui m'intéresse aussi beaucoup. Et où là, je mobiliserai notamment deux auteurs, un sociologue et un géographe, qui sont Alain Bourdin pour le sociologue et Denis Retailler pour le géographe, et qui peut nous permettre d'éclairer justement ce que Retailler appelle l'espace mobile. Alors, commençons donc par les conditions du voyage, avec un petit point quand même sur la présentation de mes sources, à partir d'où je parle. Donc bon, j'ai fait quelques entretiens ici au Maroc, là ce n'est que le début. Je n'ai malheureusement pas l'autre partie, c'est-à-dire interroger à la fois les chauffeurs et les rebelles qui ont rencontré les migrants aventuriers. Je dis toujours migrants aventuriers, comme vous avez dit, comme le dit Samaké, lui, il fait l'aventure. Le mot migrant, il ne l'a jamais utilisé pendant plus d'une heure là, d'entretien. Et voilà, on est là pour l'aventure, pour aller voir un petit peu devant, pour réaliser quelque chose, pour gagner un peu d'argent, ou en tous les cas, cette notion d'aventure qui a été bien mise en exergue par Sylvie Brodou là, dans son dernier bouquin notamment. Donc, alors, Samaké nous dit d'abord, le début de son périple, il dit de Bamako à Gao, ça c'est toujours le Mali. Il dit après, c'est là que l'aventure commence, à partir de Gao. Donc cette formulation, elle est assez intéressante parce que c'est le Mali toujours, en fait, ça renvoie aux conditions là, du transport sur la route et qui sont celles simplement du goudron. C'est une route goudronnée qui part de Bamako et qui se termine à Gao. Après, ils ont refait un goudron il y a 6 ou 8 ans qui descend vers le Niger et vers Niamey, mais avec une petite partie qui n'est pas faite encore. Mais en tous les cas, pour continuer le voyage ou le périple vers le nord, les routes goudronnées s'arrêtent. Donc c'est le Mali toujours, et le transport à ce moment-là se fait tout simplement en empruntant le car, donc des sociétés de car qui se sont beaucoup développées ces 15 dernières années dans toute l'Afrique de l'Ouest, avec des nouvelles routes, avec plein de nouvelles compagnies. Ça, je renvoie notamment aux travaux de Jérôme Lombard, hein, qui est géographe mbaliardé, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Donc voilà, donc là, un chauffeur de l'aide de car n'est pas appelé un passeur. C'est quelqu'un qui travaille là pour une société et qui fait, enfin voilà, une société, lui c'est un employé aussi, et prend des tickets aux voyageurs. Donc c'est a priori simple, en tous les cas là, pour Samaké, qui quitte le Bamako, qui est lui-même malien, mais c'est un petit peu moins simple si on n'est pas malien déjà. Et un peu moins encore quand la région est essaimée par des bandits ou par d'autres groupes armés, ce qui est exactement le cas du Mali actuellement, depuis 2012, mais ça se renforce encore maintenant. Le centre du pays il devient une zone aussi avec des nouveaux groupes armés, djihadistes ou autres. Donc la route est souvent coupée. Donc voilà, on prend le car, mais il y a des attaques assez régulières. Et quand on n'est pas malien aussi, et quand on ne connaît pas forcément la route, alors là, c'est là où je vous parlais des sources. Donc il y a pas mal d'articles de presse qui sont rédigés par des journalistes ou par n'importe quelle personne du pays, aussi par des associations de protection pour les migrants, qui enquêtent un petit peu sur cet axe-là et qui nous permettent d'avoir quelques informations. Donc là, quand on se documente auprès de ces sources, on voit que les arnaques commencent aussi depuis les gares routières de Bamako, où certaines compagnies de transport affichent un prix d'aide du transport sur l'axe de Bamako jusqu'à l'Algérie. Alors que, enfin, n'importe quelle personne qui connaît un peu le Mali, c'est ce que je viens de vous dire, la route s'arrête au niveau de Gao. Il n'y a aucune compagnie de car qui transporte des passagers au-delà de cette route. Il y avait avant 2012, avant la rébellion, avant la guerre, une compagnie de car qui montait jusqu'à Kidal sur les pistes. On passait la journée sur la route pour faire 350 km. Et là, donc, on propose à ces voyageurs un billet de 60 000 francs CFA. Donc certains marchent là-dedans, alors que, bon, à mon époque, moi, c'était... On voyageait pour 12 000, Bamako-Gao. Je sais pas, Abdoulaye, maintenant, c'est peut-être augmenté. 25 000, OK. Donc là, les premières arnaques peuvent commencer un petit peu ici, quoi. Sur le trajet de Sévaré jusqu'à Gao, donc Sévaré se situe au centre du Mali, en fait, sur la route vers le nord, des passagers sont souvent forcés de payer aussi la somme de 1 000 jusqu'à 25 000 francs CFA à chaque poste. Donc là, il y a aussi toute cette corruption. Bon, il y a beaucoup de travaux réalisés là-dessus, sur les hommes en uniforme qui, si les voyageurs ne peuvent pas payer, on est vraiment dans une zone où les armes sont partout. Donc les douaniers, ou comme les gendarmes, rançonnent au même titre que d'autres groupes armés. Et donc ça peut aller jusqu'à une somme de 25 000 francs. Et parfois, quand on n'a pas les moyens de payer, les gens prennent le téléphone portable ou quelques richesses qu'ils puissent les démanteler.
C'est moins cher. Ouais. 1 000 francs CFA, ça fait combien?
Alors 1 000 francs CFA, ça fait 1,50 euros.
D'accord.
C'est ça. Ouais, pardon. Voilà. Donc, juste pour mettre en exergue de Bamako jusqu'à Gao, ça c'est le Mali toujours, mais c'est aussi par le car, et ça tout le monde le sait, que transitent par exemple les cargaisons de la drogue ou des armes dans des cantines ou dans des choses, avec des informations, avec des relais sur la route, parce qu'on a toujours l'image, et ça je tiens à le préciser, que les méchants, hein, entre guillemets, les trafiquants, les djihadistes, se situent donc dans ce Sahara, qui est le lieu de tous les maux, en oubliant que, par exemple, le commerce de la cocaïne, qui est de plus en plus fort là, dans cette région du monde, arrive par les pays côtiers, par la Guinée, Bissau, par les îles, etc., et donc traverse les pays du sud sur des axes goudronnés, avec toute une chaîne de complicité tout nouveau. Donc, ce trajet sur la route n'est pas aussi légal ou sécurisé qu'on veut bien l'entendre, et surtout par les temps qui courent. Alors ensuite, Mohamed Samake nous dit, bon, c'est vraiment à partir de Gao que l'aventure commence. Et donc moi, j'imagine que voilà, c'est un peu dans la représentation de la majorité des gens. Donc quand le goudron s'arrête, on bascule là dans le monde de la clandestinité, de l'illégal, des mafias, des passeurs criminels, dans le monde des passeurs, hein, en gros, et si on s'intéresse simplement à la question de la migration. Et donc le passeur est devenu un peu la figure du méchant ou du mafieux. Bon, les politiques, que ce soit au Niger ou dans tous les pays de la sous-région, ou comme au Mali, tapent aussi sur le passeur en disant que c'est lui qui est responsable de la mort des gens en plein Sahara, etc. Alors que la figure du passeur, on pourra y revenir, n'a pas toujours été à ce point dévalorisée. Bon, j'ai simplement l'exemple des républicains espagnols qui, en 1936, faisaient passer les résistants, qui étaient plutôt... Donc on les appelait passeurs déjà, qui étaient plutôt une image assez héroïque, en fait, du statut, de la figure du passeur. Et évidemment, se focaliser sur la figure du passeur permet de ne pas regarder ailleurs. Donc Samake nous dit aussi, quand on arrive vers le Sahara, c'est une zone de business. OK. Donc vous avez compris que ça l'est aussi à partir de Bamako déjà. Donc la mobilité des personnes est une ressource, au même titre donc, que plus au sud, mais selon effectivement des modalités un petit peu différentes, du fait des caractéristiques physiques et climatiques du terrain. On arrive vers le Sahara. Donc avec des amplitudes thermiques très fortes, et il faut pouvoir s'équiper à la fois contre la chaleur, il faut pouvoir s'équiper à la fois contre le froid la nuit. Et on arrive effectivement dans des zones qui sont essaimées actuellement par des groupes armés. La guerre au Mali, la guerre en Libye, pour ceux qui prennent la route de l'Est, ou plus à l'Ouest aussi, en passant par l'Algérie. Donc ça, c'est tout ce contexte-là. Et dans le contexte géopolitique dont je vais vous parler, j'inclus également la pression de plus en plus forte des politiques européennes qui cherchent à lutter contre ce qu'ils appellent la migration clandestine et exportent leurs frontières jusque dans ces régions du Sahel. Donc tout ça fait partie là, d'un contexte, et je voudrais les traiter ensemble. Alors si on reste focalisé sur l'espace saharien, qui sont les entrepreneurs du passage, qui se fait un petit peu son économie ou son business, là, comme pourrait dire Samaké, autour du passage de ces aventuriers migrants? Donc ce sont les coxeurs là, dont parle Samaké. Alors coxeur, peut-être que tout le monde là, ne connaît pas ce mot. Les coxeurs, c'est un peu comme la définition qu'en donne Julien Brachet dans son bouquin, c'est des figures de la débrouille, ce sont des intermédiaires, ce sont des acteurs fluidifiants du secteur là, des transports. C'est souvent de jeunes citadins là, qui vivent en ville, qui connaissent bien là, les réseaux et qui, effectivement, prennent leur part pour diriger là, les voyageurs vers tel ou tel passeur, vers tel ou tel chauffeur. Samaké parle aussi des temps passés dans les cours. Alors en français, en Afrique de l'Ouest, on parle de cours. Ceux qui parlent anglais, qui viennent du Ghana ou du Nigeria, parlent plutôt de ghetto. Donc ce sont ces zones où on attend et où le voyage se prépare. Donc les logeurs, qui sont donc les propriétaires de ces cours ou de ces ghettos, les chauffeurs, qui sont généralement là des gens de la région, donc à partir de Gao, plutôt des chauffeurs Touareg, qui connaissent bien le terrain, et également tous les métiers qui se greffent autour, donc des mécaniciens évidemment, les transporteurs là, de carburant, en passant par les cuisinières installées à la croisée des rues, dans toutes ces villes transites, les opérateurs là, de téléphonie, parce qu'il faut être lié en permanence avec le réseau qu'on a pu mobiliser. Et sans oublier aussi, même s'ils se font plus rares, à partir de Gao, les gendarmes ou les policiers ou les douaniers qui aussi prennent leur part, et prennent une part de plus en plus forte au fur et à mesure qu'on s'éloigne d'une hiérarchie. Bon, ça, c'est aussi vieux comme le monde, c'est ce qu'on voyait déjà à l'époque de l'occupation coloniale. Donc j'insiste pas là-dessus parce qu'il y a eu de très nombreux travaux sur cette économie de transit. Je renvoie à Bali Ben Saad, à Julien Brachet dont j'ai parlé, et puis à bien d'autres, à Laurence Marfin, Vittel et autres. La multiplication des conflits armés là, dans la région est une des principales raisons de l'augmentation là, des sévices sur les migrants. Alors effectivement, là, Samaké raconte que ce sont des rebelles Touareg. Si on passe avant 2012 et qu'on n'est plus là, dans la rébellion, on peut tomber sur des bandits. Là, on tombe sur ce qu'ils appellent, tout le monde les connaît, ce sont des rebelles Touareg, qui ont besoin aussi et ça, j'y reviendrai là, vers la fin sur l'éclairage un peu théorique, qui ont besoin de cette ressource que représentent les migrants aussi pour leur tribu de guerre ou pour financer leur guerre. Donc ça fait partie du contexte. Donc les milices qui détiennent les armes seraient aussi fréquemment impliquées dans le commerce des réfugiés. Effectivement, on fait du business, on peut passer d'un coup à main armée, même une prise d'otage, au convoyage de migrants, etc., enfin, de manière très très fluide. On organise par petits groupes, soit même sur des motos, puisque c'est aussi le nouvel engin qui représente bien et qui symbolise la mobilité dans ces coins-là et qui échappe au contrôle des radars américains ou français ou de la force Barkhane. Donc tout se joue vraiment dans ce mouvement. Et la situation est particulièrement grave aussi quand on continue le périple vers la Libye où toutes ces bandes armées aussi se servent évidemment sur les voyageurs, sur les migrants de passage. Donc il y a eu des enquêtes menées par Amnesty International qui confirment le cas des mauvais traitements et des tortures infligées, alors soit par des groupes armés, soit par les autorités libyennes. Bon, on ne sait pas trop ce que signifie le terme d'autorité libyenne aujourd'hui. Et en fait, depuis la chute de Kadhafi, ça s'est démontré aussi par toutes ces associations-là, les activités des passeurs ont très nettement augmenté. Et alors c'est quand même intéressant parce que malgré tout, bon, tout le monde suit l'actualité effectivement, la route de la Libye pour aller tenter le passage là vers la mer, deviennent de plus en plus dangereuses et pourtant elles restent fréquemment empruntées. Donc ça pose question. Alors pourquoi le maintien de cette route? Est-ce que c'est pas moins dangereux de passer plutôt par l'ouest, par l'Algérie ou par le Maroc? Donc ça, c'est ce qu'il faudrait réussir à expliquer et qu'on peut expliquer aussi très bien avec la force des réseaux, avec les familles qui sont déjà installées dans le sud de la Libye, qui travaillent, qui peuvent faire office d'accueil pour les voyageurs de passage. Et bon, voilà, ça, c'est tout un pan de recherche. Là, il y a un étudiant qui travaille aussi avec moi sur la question de comment est-ce que l'information circule auprès de ces aventuriers migrants quand ils sont sur le départ à partir de Niamey, à partir de Bamako ou même plus loin. Quelle route emprunter ? Donc là, je passe sur... Samaké parle des sévices qui sont infligés aux voyageurs. Donc effectivement, donc moi, j'ai appris que les gens, les rebelles Touaregs avec qui je peux faire des entretiens, qui étaient un peu là, mes copains ou mes anciens copains, sont aussi ça. Enfin, à certains moments, dans la nuit ou le matin, peuvent faire descendre des gens dans un puits, peuvent les frapper, peuvent, etc., pour leur extorquer quelque argent. Apparemment, là, la situation sera encore plus grave quand on remonte vers la Libye. Et même, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du désert là, du Sinaï, où il y aurait des véritables entreprises de prise d'otages. Je ne sais pas, Cédric, si tu as des informations là-dessus, où on séquestre les migrants et on arrive à faire payer des rançons à distance. Et c'est ce que raconte Samaké avec les transferts de Orange Money pour le Mali. Après, c'est d'autres opérateurs. Donc même sur des milliers de kilomètres, les voyageurs appellent leurs parents ou quelqu'un qui peut payer et le voyage peut se poursuivre à travers du transfert d'argent. Il y a aussi d'autres modalités de transfert d'argent, mais j'ai pas trop le temps de m'y arrêter là. Donc globalement, les pressions sur les aventuriers migrants sont de plus en plus violentes. Et surtout, la violence se banalise. Et ça, c'est, je pense, que tous ceux qui travaillent un peu dans ces régions-là, enfin, moi, c'est mon cas, voilà, on est complètement abasourdi quand on entend des témoignages comme celui-là. Alors, est-ce qu'on y prête plus attention? Est-ce que ça se passait il y a 15 ans là, ou il y a 20 ans? Après, vu la guerre et ce qui se passe dans le nord du Mali, effectivement, il y a toute une génération qui, depuis le début des années 2000, à travers le trafic de drogue, à travers toute cette question de la piraterie ou de la notion justement d'aventure, les jeunes partent pour convoyer la drogue. C'est très, très valorisant, surtout sur les revenus que ça peut générer. Et peu importe de comment ou de la souffrance ou des droits humains, c'est quelque chose voilà, qui porte aussi, enfin, qui pose la question, on y reviendra tout à l'heure si on a le temps, évidemment, la question raciale ou la question du racisme. Est-ce que quand on est saharien d'une autre couleur de peau que les subsahariens, est-ce qu'on s'autorise plus de choses qu'avec d'autres personnes? Certainement, peut-être pas tous non plus, mais en tous les cas, ça fait partie d'une des explications. Et une vraie banalisation de la violence, enfin, voilà, ça va des prises d'otages aux attaques armées, aux poses de mines et aux sévices qui sont commis sur les migrants. Quand on parle avec des jeunes, j'ai fait plusieurs entretiens sur la situation dans une ville comme Gao, les jeunes sont fascinés effectivement par ces armes qui circulent absolument partout et qui sont un moyen de faire fortune et d'obtenir cette reconnaissance sociale. Donc ce qui repose, me semble-t-il, depuis quelques années récentes, la figure de l'aventurier, autant ces voyageurs migrants là, ce sont des aventuriers, autant les jeunes nomades sahariens sont aussi des aventuriers, et jusqu'où on va, ou alors des pirates. Alors, un point quand même sur la pression des politiques européennes aussi, parce que tout ça se fait là, dans un contexte un petit peu plus large. Alors, j'ai envie de dire la politique des Européens plutôt que des politiques européennes, parce que les politiques européennes, ça déshumanise ou ça désindividualise un petit peu les gens. Il y a véritablement des êtres humains derrière ça, qui sont nos élus, qui sont nos représentants. Alors, l'Europe, ou bien sûr, sur des coopérations bilatérales, mais... Bon, il y a des personnes dans la salle qui sont beaucoup plus calées que moi sur ces questions-là. Mais depuis 2015, là, on se déporte un petit peu vers le Niger voisin. Une loi a été votée par le gouvernement nigérien contre la traite des personnes, contre la traite des migrants, contre le voyage des migrants. Et donc ça, en échange de millions d'euros qui sont financés par l'Union européenne, et tout ce carcan-là donc, construit des pressions supplémentaires, construit des contraintes supplémentaires. Une ville comme Agadez, donc évidemment, le gouvernement nigérien a mis tout en œuvre sur quelques mois. Peut-être que ça va se desserrer ensuite. Mais pour être le bon élève de l'Europe et pour recevoir ces millions d'euros, on fait une traque contre les chauffeurs, contre les passeurs et contre les coxeurs. Et donc ça, dans le cadre de partenariats avec des pays tiers. Bon, j'ai pas trop le temps là, de rentrer dans le détail, mais il y a des promesses de 600 millions d'euros, en tous les cas, au titre de l'aide au développement, pour la participation à la répression et du trafic de migrants par les réseaux de passeurs. Donc c'est la loi là, dont je vous parlais, là, qui a voté le Niger, remonte à mai 2015, contre le trafic d'êtres humains, prévoyant des peines de prison de 5 à 10 ans pour les passeurs reconnus coupables de trafic. Derrière tout ça, il y a toute une coopération policière aussi, je passe rapidement, hein, que vous connaissez, là, les agences Frontex et autres, qui viennent sur place et qui forment les policiers ou les gendarmes ou les militaires à des techniques de renseignement et d'arrestation sur place. Et voilà, donc sur l'année 2016, par exemple, on a vu réellement une baisse du passage, en tous les cas officiel, par Agadez. Et à la suite, donc, des mesures répressives de plus en plus sévères à l'encontre des passeurs. Et derrière tout ça, c'est toute une économie locale qui s'écroule aussi. Donc, ce sont les personnes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vivent véritablement. Et là, on pourrait faire de l'histoire sur la longue durée. Agadez est une ville de transit qui, depuis des siècles, vit de la traversée et du passage des voyageurs, que ce soit les voyageurs qui circulent vers le nord ou ceux qui reviennent du nord et passent par là. D'autant plus que dans les années 80-90, le Niger et le nord du Niger avaient développé une économie touristique qui faisait vivre du monde. Autant vous dire qu'il n'y a plus du tout de touristes actuellement et que donc les migrants étaient véritablement une ressource importante pour tout un monde et qui n'est pas négligeable du tout. Donc là, le résultat, c'est que les passeurs-chauffeurs empruntent alors d'autres voies détournées qui exposent les migrants à plus de dangers et le prix du passage augmente. Puisqu'il y a plus de dangers, le prix du passage augmente. Donc bon, ça, c'est une photographie qui est prise justement à partir de Agadez. Alors, un petit point sur les moyens de transport. Là, il y a aussi pas mal de travaux qui ont été faits. Vous voyez donc un gros camion qui transporte aussi des marchandises, soit du grain, soit du bois ou soit autre chose, qui prend à son bord une centaine de voyageurs. Alors, souvent là, des migrants, mais aussi, ça c'est un clin d'œil aussi pour Hendaye, mais aussi des chercheurs d'or, puisque dans le nord du Niger, comme dans le nord du Mali récemment, il y a des mines d'or un peu à ciel ouvert, et c'est devenu une véritable ruée vers l'or. Donc ce camion-là part en direction de la Libye et amène des voyageurs migrants, aventuriers, qui partaient peut-être chercher du travail vers la Libye ou tenter leur chance vers l'Europe, mais qui détournent leur route pour faire fortune sur ces mines d'or. À côté, donc c'est un pick-up, les fameux pick-up Toyota, là, qui sont appelés au Niger là, des talibans aussi, parce qu'on risque un petit peu sa vie dessus. Là, on peut faire monter jusqu'à une vingtaine de personnes derrière. Et donc on voit, alors, bon, voilà, ça c'est très connu aussi, tout l'arsenal, le kit, les bidons d'eau, etc. Et de manière individuelle, chacun doit sécuriser son pactage pour traverser le Sahara. Je vois que l'heure tourne, donc je me dépêche. Il y aurait plein de choses à dire à partir de cette photographie, mais je passe. Donc juste sur Agadez, donc les quelques chiffres, les migrants assureraient apparemment les revenus de 7 familles sur 10 à Agadez. Et donc on peut bien comprendre que par cette pression des politiques européennes, toute une économie s'effondre. Alors, ça a commencé par le Niger, mais puisqu'on était parti avec Samaké sur le Mali qui résistait aussi un petit peu aux injonctions des politiques européennes, notamment sur les reconduites, sur les réadmissions, comme ils disent, entre guillemets, est en train de s'intéresser un petit peu à cette question-là. Et le ministre des Affaires étrangères malien a fait une visite au Niger, à Niamey, jusqu'à Bagadez, il y a quelques mois à peine, pour justement s'enquérir un peu des politiques qui avaient été mises en place au Niger. Donc il ne serait pas étonnant de voir l'équivalent se constituer sur le Mali bientôt. Voilà, je suis passé trop vite, donc on reviendra sans doute sur les questions, sur la description un petit peu du contexte. Mais en gros, donc c'est le contexte géopolitique qui va des conflits armés, du banditisme, de la difficulté du terrain, j'avais d'autres cartes aussi à vous montrer, jusqu'à le contexte géopolitique un petit peu plus large sur les politiques européennes. J'en viens maintenant donc à mon deuxième point sur cette réflexion autour de la mobilité, cette réflexion un peu théorique. Comment est-ce que ces réflexions théoriques peuvent nous permettre de penser et de comprendre tous ces va-et-vient et cette économie et du mouvement? Alors, donc ça remonte à quelques années. Dans mes lectures, j'étais tombé, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur deux auteurs qui m'avaient plutôt inspiré. Donc le premier, c'est Alain Bourdin. Là, je m'appuie sur un de ses articles paru en 2005 qui s'appelle « Les mobilités, le programme de la sociologie » dans les cahiers internationaux de sociologie, qui, lui, définit la mobilité en disant, je cite, « La mobilité ne consiste pas à prendre une place dans un ordre, mais à s'approprier une ressource pour en faire usage. » Donc c'est une approche en termes de ressources convoitées qui renvoie plus à une offre qu'à un ordre et permet de rendre compte donc de phénomènes flexibles et aléatoires qui font le quotidien, de ce que j'ai pu observer, des pasteurs nomades du Sahara et du Sahel, mais également donc des citadins, migrants, voyageurs, aventuriers. Donc les pasteurs nomades qui effectivement cherchent le pâturage et les points d'eau qui varient d'année en année, bon, ça c'est assez connu, mais en tout cas c'est ce savoir-faire. Donc là on est bien éclairé là par cette définition-là. Évidemment les fruits du commerce, licite ou illicite, qui se déplacent selon les circonstances, selon les arrivées, selon les fermetures là, de frontières ou non, etc. Mais ça peut aller jusque... la captation de postes rémunérés. C'est pour ça que moi, je suis allé très loin avec cette définition de la mobilité comme accaparement de ressources. On va s'inscrire dans un recrutement, par exemple, les anciens rebelles qui avaient la possibilité d'être recrutés là, dans l'armée ou dans la gendarmerie. Donc investissent ce lieu-là pour avoir un petit salaire. Donc participent aussi, selon moi, de logique de la mobilité, même s'ils deviennent enfermés là, dans une caserne ensuite. En tout cas, c'est se positionner sur une ressource pour en faire usage. Donc les ressources, poursuit Alain Bourdin, donc forment une nébuleuse qui se transforme en permanence beaucoup plus vite que le système des positions, en fonction des évolutions du contexte, mais aussi des intentions ou des choix de l'acteur, qui lui-même définit ses ressources pertinentes. Alors on est vraiment dans... Moi, je pense qu'il faut mobiliser aussi là, cette notion que j'aime beaucoup de Norbert Elias, dans cette notion là, de configuration. Et d'ailleurs... j'aimais bien aussi les métaphores utilisées par Norbert Elias pour parler de ces configurations. Bourdin a aussi recours à des métaphores, d'autres. Ainsi, par exemple, il distingue les parcours sociaux de la mobilité de ceux qui s'élaborent dans la sédentarité, qui consiste à occuper des cases dont la valeur serait définie par des règles du jeu. Alors là, il prend deux jeux dans l'exemple, comme au Monopoly. On s'installe là les cases les plus chères et on construit là-dessus pour apporter de l'argent. Et un système qui s'organise plus dans la fluidité des mouvements et dans la mobilité serait le jeu d'échecs, où c'est la position du pion sur la case par rapport à la configuration du jeu qui fait l'importance du lieu et de cette position-là. Donc ça me paraît assez éclairant comme métaphore. Dès lors, la mobilité n'apparaît plus comme un déplacement fortement balisé et organisé entre des points fixes, mais comme une construction plus libre, plus individuelle et plus conjoncturelle. Elle pourrait ainsi être définie comme l'ensemble des techniques et des comportements qui permettent l'accès à des ressources sociales désirées. Plus celles-ci sont diverses et changeantes, plus l'acteur est demandeur de moyens pour les atteindre, plus la mobilité devient un phénomène central. Bon, voilà, je pense que ça parle à tout le monde ou à nous tous, en tous les cas, soit dans nos travaux ou même dans nos vies personnelles et individuelles. Je me dépêche. Alors l'autre auteur, donc, c'est Denis Retailler, qui est particulièrement éclairant pour cette toile de fond des rencontres et des échanges entre passeurs, convoyeurs et voyageurs du Sahara, qui lui propose une théorie de l'espace mobile, qui en plus émane directement de ses travaux de terrain qu'il a pu faire au Sahel, notamment au Niger, jusqu'à 1992. Donc là, il n'a plus fait de terrain depuis, mais en tous les cas, il est bien imprégné par ces réalités-là. Alors, pour lui, les lieux deviennent mobiles. Alors ça, c'est très important. Ils sont définis d'abord et avant tout comme des saillances, comme des moments de rencontre et d'interaction entre des champs différents. Donc là, on est assez proche aussi de ce que proposait Bourdin. Il dit, enfin, cette phrase simple, « Le lieu, c'est là et quand il se produit quelque chose, du fait de l'entrée en interaction réciproque, d'éléments dispersés se trouvant réunis. » En fait, c'est le croisement. Et là, c'est absolument parlant. Voilà, c'est quand Samaké, sur son camion, se fait arrêter par des rebelles qui sont sous un arbre au milieu de nulle part, il se passe quelque chose là, physiquement et concrètement, mais qui disparaîtra ensuite. Et avec les mêmes acteurs équivalents, se rejouera, la même scène pourra se rejouer dans une autre localité. Alors, il expose cette idée que ce sont les liens qui précèdent les lieux et non l'inverse. Pour lui, passage rapide sur les catégories, justement, sur la terminologie. Le site en question désigne justement le cadre matériel. Au milieu, là, de nulle part, ou à côté, enfin, c'est jamais nulle part, mais dans telle ou telle vallée ou sous tel arbre. Ça, c'est le cadre matériel du lieu. Et la localité renvoie à la mémoire des lieux attachés au site. Donc, dans l'espace mobile, les lieux paraissent et peuvent disparaître ou se transformer ou se déplacer, égaux à eux-mêmes, les mêmes se retrouvent ailleurs pour faire la même chose. Voilà, ça s'est dit avec ces mots, je vous l'ai dit avec les miens tout à l'heure. Cette plasticité du lieu est une forme de résistance à l'incertitude aussi. C'est-à-dire que, OK, on est sur la route, OK, sur Agadez, ça devient plus compliqué, on peut peut-être réorienter à partir du moment où on est sur Niamey, un voyage plus sur Gao, où c'est compliqué également parce qu'il y a beaucoup de violence, etc. Donc chaque acteur, en conscience des informations qu'il peut avoir, va faire un choix sur la route qu'il peut emprunter. Les notions de circonstances, d'incertitude, donc toutes ces notions-là que moi j'aime bien travailler en histoire notamment, de surgissement et d'effacement, quelles que soient les temporalités concédées, se retrouvent ainsi au fondement de ce qu'il appelle donc l'espace mobile. La centralité circule, comme il exprime lui-même. Voilà. Ainsi, les termes de mobilité et de mouvement pourraient décrire bien plus qu'un simple déplacement dans l'espace, mais, pour reprendre les termes de Sarto, un art de faire, une manière de vivre et d'être aux autres et au monde. Je termine très vite pour vous dire que, en ce sens, donc, ressources et espaces mobiles présentés par Bourdin et par Retailler permettent, selon moi, de penser la rencontre donc, que j'ai essayé de vous présenter au pas de course entre ces aventuriers migrants et les passeurs sahariens, rebelles et autres. Pour les Touaregs qui vivent au Sahara central, donc sur 5 pays, l'Algérie, la Libye, le Niger, le Mali et le Burkina, et sont pour certains d'entre eux spécialisés depuis des siècles dans les traversées et le transport au Sahara, même si le commerce et le transport concernent bien moins de monde que les activités pastorales et agricoles. Donc pour eux, en tous les cas, les aventuriers migrants représentent évidemment une ressource qu'il convient de s'approprier. Et dans ce cas précis, nul besoin d'aller aux marges de leur territoire, ni de s'aventurer hors de ses bases. La ressource vient s'offrir, on pourrait dire, quasiment à domicile. C'est pour ça qu'il y a cette idée de gens qui quittent en fait soit leur campement ou leur petit village, vont faire un kilomètre ou deux kilomètres à bord d'une mobilette même, avec leur arme à la main, et savent très bien, parce qu'ils sont connectés avec les fameux coxeurs, passeurs, chauffeurs, etc., que là, ils vont stopper l'avancée d'un véhicule et, par cette position de force, pouvoir gagner un pécule. Pour les aventuriers migrants, les habitants du Sahara, en l'occurrence donc ici là, les Touaregs, ça peut être plus à l'est des Toubous, qui se sont spécialisés aussi donc vers la Libye et puis vers le Tchad, sont les seuls à connaître les itinéraires et à maîtriser les techniques de transport nécessaires et l'acheminement d'un point à un autre au sein de cet espace particulièrement contraignant. Donc on est là dans des relations de pouvoir qui se créent dans toutes les directions. Les voyageurs migrants ont évidemment besoin de ces passeurs pour réaliser leur objectif. Quel que soit ce que ça peut leur en coûter, en tous les cas, ils se lancent là-dedans. Un parcours donc semé d'embûches, et particulièrement donc, quand la situation géopolitique se détériore considérablement. Le cas des rebelles et autres groupes armés qui sont arrêtés en un point donc, et stoppent la progression là, des migrants est un phénomène qui, donc, selon moi, participe aussi vraiment là, des logiques de la mobilité au sens de l'appropriation là, des ressources. Et je termine peut-être là-dessus en disant que moi, j'avais même poussé la proposition en travaillant sur la sédentarisation là, des passeurs nomades dans le nord du Mali, en montrant que cette sédentarisation participait aussi de logiques de logique sociale et politique de la mobilité, parce que, voilà, je le fais vraiment rapidement, dans les années 90 et plus encore dans les années 2000, il y avait une offre des aides internationales et des ONG qui favorisaient la sédentarisation et l'installation de villages. Donc un chef de famille, un chef de fraction, un chef de tribu pouvait constituer un village, donc implanter du banco, un petit centre de santé, un puits, etc., pour capter ce financement-là. Donc on est toujours, effectivement, on s'arrête, mais on est toujours vraiment, selon moi, dans ces logiques sociales de la mobilité. Et enfin, juste l'épilogue, ça c'est pour la discussion avec vous, et ce sera vraiment avec plaisir. Il me semble quand même que ces catégories donc, de nomades et de sédentaires qu'il faut déconstruire, bon, moi, j'ai fait ça pendant longtemps, mots extérieurs, étrangers, etc., qui sont une impasse et qui cloisonnent les êtres humains dans des situations. Mais il me semble quand même, à travers tout ce qu'on voit et ces moments de vie dans le mouvement, qu'il y a quand même un rapport au monde et un rapport au l'autre qui joue sur le rapport espace-temps, qui est intéressant d'interroger. Selon moi, les hommes, les femmes qui sont là dans le mouvement surinvestissent le rapport au temps, le rapport à l'histoire, le rapport à l'avenir, le rapport à ce qui adviendra, un imaginaire qui peut être surdéveloppé. Bon, c'est particulièrement le cas au Sahara, où on laisse peu de place et où on se situe véritablement dans le temps, alors que ceux qui sont plus dans des logiques de la sédentarité, dans une logique de place, ça c'est peut-être le lien ou la transition avec Israël, en fait, sont véritablement sur un rapport à l'espace qui prédomine, alors qui se construit. Bon, on a toujours besoin de l'espace pour dire le temps et du temps pour dire l'espace. Mais voilà, enfin, sur cette première lancement de comment se fait-il que des nomades se mettent à contrôler le mouvement des autres, il y a ce rapport espace-temps qui convient d'être interrogé avec ces nouvelles dynamiques contemporaines. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci.
Merci beaucoup.